Matthieu chapitre 12, on est rendu au verset 14 et on va lire ce soir jusqu'au verset 30. Ça va être notre texte. Matthieu 12, 14. Et on va lire d'un trait, là, parce que ça va nous donner un peu l'ensemble du passage. Vous allez voir, il y a des choses que vous connaissez là-dedans. Peut-être des choses que vous connaissez un peu moins, mais il y a des choses qui sont assez connues de la parole. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. » Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David? » Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc ici on a, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine d'avant, parce que la semaine passée c'était le repas du Seigneur. On a vu dans les versets 1 à 13, conflit concernant le sabbat. Vous savez, c'est un gros point parce que, bon, on a vu que c'était une fierté nationale des Israélites parce que ça les distinguait des autres nations et tout ça. Et le conflit continue ce soir avec beaucoup de tensions et dans les évangiles en général, on voit toujours la tension qui monte. Là, parce que c'est le plus palpable, c'est vraiment dans l'évangile de Jean. Mais on voit ça aussi dans Matthieu. Et donc, le conflit est encore là, mais là, c'est sur la question du pouvoir ou l'autorité. Et on va le voir dans le texte ce soir, mais c'est le titre de mon message. Le conflit sur la question du pouvoir. Jésus, de quel pouvoir, quelle autorité il fait ça? Les pharisiens disent, c'est par Belzébul, le prince des démons. Et Jésus a clarifié, vous allez voir. Mais il faut comprendre ici, pour se situer avec ce qu'on a vu avant. Dans le verset 14, ça dit que les pharisiens sont sortis, là, OK, parce que, bon, c'était le jour de sabbat, ils avaient tendu la main. L'homme avec la main sèche avait une main saine, avait tendu la main, était devenu saine. Et là, les pharisiens sont sortis et ont consulté des moyens de le faire périr. Le conflit a monté au point où est-ce qu'il y avait des conséquences meurtrières. Ils voulaient le tuer à cause de ce qu'il faisait. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, dans le verset 15, a dit « Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. » Pas parce qu'il avait peur. Il s'est éloigné parce que Jésus était parfaitement, vous savez, dans les évangiles, c'est tellement évident, Jésus est toujours parfaitement au contrôle de la situation. OK? Et pourquoi qu'il s'en allait? Il s'en allait de la religion de l'homme. Il s'en allait de la religion meurtrière, vide, vaine et trompeuse. Pourquoi? Regardez la fin du verset 15. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Il s'éloignait de ceux qui étaient trompeurs, qui étaient vains, qui étaient pris dans une religion d'hommes. afin d'attirer la foule à lui. Il éloignait les gens de ceux qui les trompaient puis les attirait à lui. Voyez-vous comment Jésus était au contrôle? Ceux qui voulaient le tuer, probablement c'était pas son heure, donc ça pouvait pas marcher à ce moment-là. Mais Jésus s'en éloignait afin d'attirer les gens à lui. C'est pour ça qu'il faisait les miracles. Il faisait pas les miracles pour faire un spectacle, il faisait les miracles pour montrer qui il était. Puis d'ailleurs, on l'a vu hein, au verset 23, n'est-ce pas là, le fils de David? Hein? Puis on va tantôt se pencher là-dessus, mais... Donc Jésus attirait la foule à lui, avait compassion d'elle, et on voit ça avec les guérisons qu'il faisait. Et c'est selon ce qui est dit de lui, parce que le passage qu'on a lu, là, selon ce que dit Ésaïe le prophète, c'est Ésaïe 42, les versets 1 à 4. Et, dans les versets 10, ici, dans verset 18 à 21, là, dans Matthieu, c'est la citation d'Ésaïe 42, 1 à 4, qui nous parle du serviteur de l'Éternel. Et c'est un type, c'est une façon d'appeler le Messie. Quand ça dit dans Ésaïe « mon serviteur », des fois ça dit « mon bras droit » puis tout ça, c'est le Messie. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que Jésus ici avait une attitude bien humble, OK? Et c'est pour ça qu'on m'a dit en bon québécois, ça clashait avec le leadership d'Israël, qui eux, les rabbins, là, s'attendaient à l'opposé de ce que Jésus était. Ils s'attendaient à un homme politique, un homme militaire, qui allait venir avec tambour et trompette. Et là, tout virait à l'envers et vraiment être spectaculaire. Et Jésus était à l'opposé de ça. À l'opposé de leur attente, OK? Et ça l'amenait à un conflit, OK? Parce que lui dit, non, t'es pas celui qu'on attend. Jésus dit, oui, je suis celui, selon les Écritures, qui a été annoncé. Et donc, ce conflit-là continue. Il avait commencé dans les versets qu'on a vus auparavant, puis ce soir, on le voit avec la question du pouvoir. De quelle autorité Jésus faisait ça? C'est qui était au contrôle de ces miracles-là qu'il faisait? J'aimerais qu'on regarde ce soir ce conflit-là. On va voir, il se développe en trois. Il y a trois développements, ce conflit-là. OK? D'abord, dans les versets 15 à 21, on voit la provocation du conflit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on lit ces versets-là, Jésus a provoqué le conflit. Parce que non seulement il a quitté la religion des hommes, comme on a vu, mais il a continué à guérir. Puis là, c'est juste c'est les mêmes entrefaits. C'est encore le jour du sabbat. Il dit, tu ne peux pas être un homme de Dieu, envoyé de Dieu, parce que tu fais ça le jour du sabbat. Okay? Et là, au verset 17, ça nous dit que ces choses-là qu'il faisait, okay, il guérissait, c'était l'accomplissement de ce qui avait été annoncé à Ésaïe le prophète. Et ici, ça nous donne une description, c'est quoi le caractère du Messie. Okay? C'est un serviteur bien-aimé, en qui Dieu prend plaisir, il a son esprit sur lui, il annonce la justice aux nations. Mais là, regardez ce que ça dit au verset 19, c'est pas quelqu'un qui conteste, qui crie, qui fait entendre sa voix dans le... Donc, voyez-vous, c'est pas le gars qui vient avec tambour et trompette. C'est pas ce que les gens s'attendaient, OK? Il brise pas le roseau cassé, il n'éteint point le lumignon qui fume, ça c'est sa compassion. Les gens qui sont déjà pas mal cassés, un roseau, là, c'est pas très... OK, ben, il allait vers ceux qui étaient brisés. Puis un lumignon, là, c'est juste un petit bout de chandelle qui reste à peine de lumière. Là. Il ne l'éteint pas. Ça nous parle de la compassion de Jésus qui vont vers ceux qui ont des vies pas mal brisées. T'sais? Et c'est ça qu'il faisait ici, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'il dit, c'est l'accomplissement. Il ne vient pas avec tambour et trompette, mais il va vers ceux qui sont délaissés. Et... ça nous dit « jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en lui ». On va regarder ça un petit peu ensemble, qu'est-ce qu'il y a ici. Donc, cette citation, je l'ai dit tantôt, c'est Ésaïe 42, versets 1 à 4. Et il faut comprendre, quand un écrivain du Nouveau Testament, et spécialement Matthieu, parce que Matthieu, on sait, il est écrit aux Juifs, puis il voulait vraiment montrer aux Juifs, Jésus est le prophète, le Messie, qui était annoncé par les prophètes, le roi qui devait venir, le fils de David, OK, c'est dit de 36 façons. Donc, il cite beaucoup les Écritures et il y a un but. Et ici, quand il cite Ésaïe 42 sur le serviteur de l'Éternel, OK, c'est sûr qu'on voit le caractère humble et débonnaire de ce serviteur, OK, de Jésus. Mais le but de la citation, c'était pas d'abord de mettre ça en premier plan. C'est vrai, OK, on voit là-dedans le caractère humble et débonnaire de Jésus, n'est-ce pas? Mais le but de citer, parce que selon ce que je comprends ici de la citation, dans son contexte, parce que c'est dans le contexte conflictuel, c'est dans le contexte de ce que Jésus faisait. Matthieu, ici en citant Ésaïe, voulait plutôt montrer que Dieu retenait volontairement son jugement envers le leadership d'Israël. Il aurait pu venir et dire, « Ah, vous êtes, mais Dieu même avait de la patience, non seulement avait de la compassion, mais il retenait son jugement envers le leadership hypocrite d'Israël qui le rejetait, puis je veux dire, après rejeter, puis rejeter, puis rejeter. Il leur a donné beaucoup de chance, autrement dit. » Donc, c'est une manifestation de ce caractère-là qu'il avait. Il n'a pas contesté avec eux. Il n'a pas amené les foules à dire, « Voyez-vous comment ils n'ont pas de bon sens? » Non, il leur donnait la chance de se repentir. Puis il continuait à faire le bien, puis il les enseignait, puis il voulait leur montrer « the errors of their way », l'erreur de leur voie, de leur fausse voie, OK? Selon ce que je comprends de la situation, c'est ça le sens ici, parce que c'est donné en rapport avec la foule et le leadership. Et Jésus, plutôt que de combattre en contestant, puis écoutez bien, quelque chose d'important, il combattait en mettant de l'avant la justice de Dieu. Ça dit, bon, il n'a pas éteint le demi-million qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et que les nations espéreront en lui. Donc, comment qu'il combattait? Il combattait avec la bonté. Il combattait en faisant du bien. Il ne rendait pas le mal pour le bien. Il combattait ce serviteur de l'Éternel, Jésus, comme c'est prophétisé, il combattait en faisant le bien, en étant doux, en étant compatissant pour ceux qui ont de la misère. C'est comme ça qu'il combattait contre le leadership d'Israël. Puis ça leur donnait leur chance. Il aurait pu leur donner le jugement. Ils méritaient le jugement. Puis ils l'ont eu finalement. On sait que, bon, ils ont rejeté Jésus, il est allé à la croix, mais vous savez qu'en 70 après Jésus-Christ, le jugement qui devait tomber, est tombé. Je veux dire, Jérusalem a été détruit complètement par Tite, l'empereur romain. Fait qu'on voit la patience, la bonté de Dieu, qui voulait leur donner le temps d'être convaincus de leurs besoins, eux aussi d'être pardonnés, d'être purifiés. Eux qui pensaient qu'ils l'avaient tout dans la poche, ils étaient grandement dans l'erreur. Et là-dessus, j'ai parlé de provocation, je vais aller vous expliquer dans quel sens. Venez avec moi dans Romains. J'amène ce point, j'en train de le ficeler ensemble, vous allez le comprendre encore, ça va être plus clair à la lumière de Romains 10. Parce qu'on parle de nation, là, vous allez voir, on va tout mettre ça ensemble avec ce qui arrivait, la citation, une référence parallèle. Vous savez que Jésus venait offrir le royaume à Israël, et donc à son leadership aussi, OK? Il était sincère en le faisant, puis il leur donnait vraiment la chance, là, OK? Fait que c'est ça qu'on considère à soi. Puis regardez, Romains 10 à partir du verset 19. « Mais je dis, Israël ne l'a pas su. Moïse le premier dit, « J'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Et encore Ésaïe, ici c'est Ésaïe 65, Ésaïe pousse l'hardier jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Mais au sujet d'Israël, il dit « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » C'est la bonne référence parallèle avec ce qu'on regarde, parce que Dieu, en Jésus-Christ, avait les bras ouverts face à ceux qui étaient rebelles puis contredisants. Voyez-vous comment? On l'a vu, il n'arrêtait pas de le contredire. « Ah, tu fais ça par... » Belzébul, le prince des Satan, le prince des démons. Et donc, c'est une bonne référence parallèle parce que ça nous montre que Dieu voulait les provoquer à la jalousie. Pourquoi? Pour les pousser à la repentance, pour qu'ils voient que... Parce que là, retournez dans Matthieu, ça dit qu'il va faire triompher la justice, puis les nations vont espérer en lui. Voyez-vous le concept des nations déjà? Il offrait le royaume d'abord à Israël. Mais là, déjà, on voit poindre le plan qu'il allait avoir avec l'Église, où est-ce que Dieu allait se tourner vers les nations. Pourquoi? Parce que Dieu voulait les provoquer à la jalousie. Dieu les aimait au point qu'il voulait les pousser à la repentance en montrant qu'il passait à côté de ce qu'il allait maintenant offrir aux nations. Il passait à côté de ce que Dieu leur offrait, puis Dieu allait maintenant l'offrir aux nations. Et là, je vais juste prendre le temps d'expliquer ça ici. Il faut comprendre que quand nous, on dit, wow, c'est donc bien beau, Dieu allait l'offrir aux nations. Pour Israël, c'est un scandale. Ils détestaient les nations, c'est les goïms, c'est méchant. non-repentants qui connaissent rien de la justice. Puis il y avait quand même de la vérité là-dedans, parce que, je veux dire, les nations, c'était des païens, puis ils adoraient. Il y avait toutes sortes de... c'était pas jojo, là. Mais Israël était pas mieux. Puis quand on lit Romains 1, il dit, « Hey, t'es pas mieux, toi, juif, là, qui dit de la loi, puis tout ça, puis t'es un scandale parce que tu te vantes de la loi, puis tu fais la même chose. T'es pas mieux que personne. » Fait qu'il dit, « Ah, les nations méritent rien. » Ben, c'est vrai, ils méritaient rien. Mais ils méritaient eux autres pas plus non plus. C'était ça, la tromperie. Ils méritaient pas plus qu'aucune autre nation. Et donc, on voit comme ça comment le rejet d'Israël a conduit à l'ouverture de Dieu vers les nations. Et c'était un avertissement, dans le fond, qui était donné ici. Et comme je l'ai dit, dans le livre des Actes, on voit comment ça, tu sais, ça commence où le livre des Actes à Jérusalem, mais hein, à cause de justement de cette attitude-là qui a persisté, non seulement à la croix, mais après la croix, la résurrection, Israël, en général, en tant que nation, ont rejeté. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Acte 8, Dieu les envoie, puis ils se tournent vers les nations. Puis c'était pour vous dire comment ça pouvait à la colère, quand Paul donne son témoignage dans les Actes, aussitôt, ça nous dit qu'il dit le mot « nation ». Je me rappelle plus c'est quoi le chapitre dans les Actes. Les Juifs sont en colère puis veulent le lapider. Pour vous dire, c'était vraiment, ça allait chercher des passions profondes chez les Juifs. OK? Dieu les provoquait à la jalousie pour qu'ils voient qu'ils étaient en train de manquer ce que Dieu avait de plus précieux à offrir. Et donc, c'est ça. Je pense qu'on voit vraiment ici dans Matthieu une retenue du jugement. Mais qui annonçait le jugement à venir, qui annonçait que s'il persistait, il allait manquer ce que Dieu leur offrait dans sa grâce. Et savez-vous, on l'a lu dans Romains 10, 21, Dieu avait encore les bras ouverts vers un peuple rebelle et contredisant. Savez-vous que c'est encore vrai de nos jours? Même si le jugement est tombé sur Jérusalem, Dieu a encore l'amour pour les Juifs, puis il veut encore les sauver. Savez-vous quoi? Il y a encore aussi des Juifs qui sont sauvés. Donc, on peut pas... exhauste. On ne peut pas épuiser la patience de Dieu. Puis la Bible nous dit qu'ils sont aimés à cause de leur père. Puis je viens de lire un livre sur les Juifs, tu sais. Tu sais, on pense que les Québécois, là, on est... M. Côté, il dit, on est un peu cabochons, les Québécois, là, tête dure, là. Et ça n'avait pas vu un Juif, là, c'est en vrai tête dure, là. Puis de quelqu'un qui tient son point, là. C'est, je pense, historiquement, là, sur la planète, je pense que c'est... Je pense qu'ils gagnent pas mal la palme. Puis je dis pas ça pour être méchant, tout ça, mais dans leur culture, c'est des gens. T'ostiner avec un juif, même, qui vont dire, tu sais, on dit ça des fois des baptistes indépendants, mais t'as trois rabbins qui parlent ensemble, puis t'as huit opinions, là, tu sais. Je veux dire, c'est un peu pas mal. Un dernier point là-dessus. Non seulement Dieu encore offrait sa grâce à ces gens-là, mais quand ça dit un peuple rebelle et contradisant, là, c'est un peuple. Les Juifs orthodoxes qui allaient au sabbat, à la synagogue, le sabbat à tous les dimanches, c'est d'eux qui parlent. Et c'est ça le point ici qu'il faut comprendre. Eux autres, tu vois, les rebelles, c'est les nations. Les rebelles, c'est eux là-bas. Mais non, Dieu dit, non, j'ai les bras ouverts vers vous. Vous êtes les rebelles et contradisants. Et mes amis, il n'y a pas plus rebelle que quelqu'un qui ne se voit pas rebelle. Parce que la réalité, là, la nature humaine est rebelle à Dieu. Ah, vous savez, hein, quand on a le Saint-Esprit, là, on sait, mon ami, je suis donc bien têtu. Oui, on l'est, mon ami. Mais c'est déjà un bon point de départ de voir qu'on l'est. Mais quelqu'un qui se fait croire qu'il ne l'est pas, c'est pas mal plus dur. Et c'est pour ça que dans les temps dans lesquels on est en ce moment, je veux dire, si Dieu peut amener des circonstances qui font que la méchanceté du cœur de l'homme sort, puis tout ça, puis de me dire, ainsi soit-il, parce que c'est à ce monde-là que Dieu ouvre les bras. Les gens qui voient leur rébellion, qui voient leurs besoins. Parce que la meilleure chose qui puisse arriver à un rebelle, c'est que sa rébellion lui soit révélée. Surtout quelqu'un qui pense qu'il n'est pas rebelle. Et c'est ce que Dieu faisait ici. Il leur révélait à eux-mêmes qu'il était. On va voir ça dans le deuxième point. Non seulement il les provoquait à la jalousie, mais dans le deuxième point ici, le conflit continue à se développer. Il manifeste, non seulement il provoque à la jalousie, il provoque le conflit, mais il voulait manifester le conflit. Regardez verset 23. Bon, on va lire à partir de 22, là. « Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. » Puis là, regardez, toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David? » Ça, c'est la foule. Verset 24, les pharisiens, ayant entendu cela, dire « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Jésus ici amenait la foule à manifester. Moi, je pense que là-dedans, je lis quand il pose la question, soit la perplexité, je ne sais pas si c'est vraiment de l'incrédulité, mais seulement, tu sais, je pense pas qu'il dit « Oh, wow, c'est le fils de David, on a trouvé le Messie », il se demande « Hé, ça l'es-tu vraiment? » Il n'était pas trop décidé. Fait que déjà, il manifestait la folie, « Branche-toi, là. C'est-tu le fils de David ou ça ne l'est pas? » Okay? Déjà, il faisait manifester, il a fait le miracle, puis ça mettait de l'avant l'attitude de la foule. Il n'était pas branché encore. Okay? « C'est-tu vraiment le fils de David? » Mais là où c'est vraiment plus clair, avec les pharisiens, eux autres, il n'y avait pas d'ambiguïté. « Ah oh, non, il fait ça par Belzébul, le prince des démons. » Jésus amène les pharisiens à manifester leur aveuglement puis leur incrédulité. Bon, la dureté de leur cœur, tout, OK, ce qui était mauvais. Et c'est très important qu'il en soit ainsi, parce qu'on ne peut pas avoir de restauration si on ne voit pas le problème. Jésus les amenait autant la foule que les pharisiens à voir leur problème. La foule n'était pas branchée, puis il fallait qu'ils reconnaissent, oui, c'est effectivement le fils de David, parce qu'il n'y en a pas d'autres comme lui qui font ces miracles-là, puis tout ça. C'est l'accomplissement des Écritures. Oui, c'est le fils de David. Puis les pharisiens, il fallait qu'ils voient que... Puis là, on va le voir parce que c'est le prochain point, parce que Jésus les prend la balle au bon pour les pharisiens. Il fallait qu'ils voient qu'ils étaient dans un méchant problème spirituel. C'est-à-dire, il y avait le Fils de Dieu devant eux, puis il disait que c'était... Il faisait ce qu'il faisait par des démons. C'est grave. Maintenant, pour appliquer tout ce qu'on a vu depuis le début dans le message à ce qu'on vit en ce moment, n'est-ce pas que j'ai dit à plusieurs reprises depuis le mois de mars, que la crise qu'on vit, c'est une crise révélatrice. Ça révèle bien des affaires, hein? Sur nos cœurs, sur des relations, sur le... Il y a tellement de choses que Dieu révèle. Puis c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Parce que l'aveuglement, la tromperie, puis tout ça, c'est du domaine des ténèbres. Mais Dieu, quand il révèle, c'est mis dans la lumière. Et c'est bien, c'est pas beau. C'est-à-dire, quand Dieu met le péché à la lumière, la tromperie à la lumière, puis toutes les choses à la lumière, c'est pas beau, mais au moins c'est dans la lumière là où ça doit être. OK? Et voici ce que je veux apporter comme application à ce sujet-là. Tout comme Jésus-Christ ici a permis de mettre en lumière la réalité des choses. Une foule pas branchée, qui n'était pas, bon, on pourrait dire, pour être gentil, on va dire perplexe, mais on pourrait dire incrédule. Puis vraiment la rébellion ouverte des pharisiens. Jésus a mis ça en évidence. Pourquoi? Parce que c'était la seule façon qu'ils pouvaient connaître le salut. C'est la seule façon qu'ils pouvaient être réconciliés avec Dieu. Et de la même manière pour nous autres, il faut que Dieu jette la lumière sur la réalité de nos cœurs. Il faut que Dieu manifeste les choses qui ne marchent pas dans nos vies. Les conflits qu'on peut avoir entre nous et lui, avec les autres, avec des frères et sœurs, avec... OK? Pourquoi? Parce que c'est là qu'est la victoire. C'est là que Dieu peut intervenir. Parce que si on ne voit pas le problème, on ne va pas s'humilier et on ne va pas crier à Dieu. Donc, Dieu est bon en ce moment avec ce qui arrive pour révéler les choses telles qu'elles sont. OK? Parce que, mes amis, il n'y a pas plus vulnérable que celui qui ne se croit pas en danger. Et ici, c'est ce que dit. Vous êtes en danger. Jésus mettait ça en lumière. Le danger de l'incrédulité. Et pour nous, c'est la même chose. Je continue l'application dans ce sens-là. Vous savez, le monde chrétien, la chrétienté, l'Église de Jésus-Christ. Moi, de mon vivant, puis c'est pas un gros vivant, là, je veux dire, j'ai 20 ans de vie chrétienne, grosso modo, 21 ans. Mais j'ai jamais vu l'Église de Jésus-Christ aussi divisée. Jamais. En fait, j'ai jamais vu le monde aussi divisé. Bon, je dis ça du haut de mes 47 ans, là. Je veux dire, il y a peut-être eu d'autres moments, là, mais... Puis même dans ce que j'ai lu, je veux dire, il y a ici... C'est assez sans précédent quand même, là. Tu sais, je veux faire une grande déclaration historique, mais je trouve que c'est. Il y a beaucoup, beaucoup de divisions en ce moment. On est d'accord? Hein? Beaucoup de divisions. Puis le monde chrétien est beaucoup divisé par rapport à la soumission au gouvernement versus à Dieu, n'est-ce pas? Mais je veux qu'on voit là-dedans, c'est une tactique de Satan pour nous diviser. Pour diviser l'Église de Dieu. Bien, qu'est-ce qui doit caractériser l'Église de Dieu? Selon Éphésiens, c'est l'unité spirituelle puis la vérité dans l'amour. Qu'est-ce que ça fait les divisions? Ça l'attaque tout ça. OK? Puis juste quelque chose que le Seigneur m'a montré par rapport à ça. Savez-vous, je pense que si on s'assoit avec tous les chrétiens qu'on connaît, là, on est tous d'accord qu'il faut se soumettre au gouvernement. On est tous d'accord. Là où est-ce qu'il y a un désaccord, c'est où est-ce que l'obéissance à Dieu supplante celle du gouvernement. C'est là qu'on n'est pas tout d'accord. Fait que pour dire, c'est pas qu'on n'est pas d'accord sur l'obéissance au gouvernement. On n'est pas d'accord sur l'obéissance à Dieu. Avez-vous pensé cette façon-là? Je pense qu'on est tous d'accord qu'on doit payer nos impôts, qu'on doit respecter les limites de vitesse, que, OK? Mais là où on n'est pas d'accord, c'est la soumission à Dieu. C'est quoi? C'est un conflit concernant la question du pouvoir. On a la même chose en ce moment. C'est qui est au pouvoir? À qui est notre allégeance? Moi, je n'avais pas pensé de cette façon-là. Mais vous voyez comment la parole est d'actualité. Il y avait des conflits du temps de Jésus avec ça. La même chose encore. Donc, notre texte nous rappelle, nous donne une compréhension spirituelle sur notre situation pour qu'on puisse déjouer Satan qui essaye de s'attaquer à Jésus-Christ, notre tête. Jésus-Christ n'a aucune faiblesse. Il est au trône, sur le trône de Dieu, à la droite de Dieu. Il est au-dessus de toute principe. Il est invincible, inattaquable. Donc, Satan essaie de s'attaquer à la faiblesse humaine dans son corps. C'est nous, son corps. C'est nous, le point fragile. OK? Et comment il fait ça? En s'attaquant à l'autorité. Et mes amis, où est notre protection? Ah, il y a une protection à se soumettre aux autorités humaines, puis on doit le faire. Mais la protection suprême, c'est se soumettre à Dieu. Puis là où est-ce qu'il y a un conflit, là où est-ce qu'on n'est pas sûr, on doit se ranger du côté de Dieu. Puis tu sais quoi? Dieu va nous protéger. Puis regardez historiquement, la chrétienté historique a eu... On n'est pas les premiers à se poser cette question-là, on se soumet-tu à Dieu ou plutôt qu'aux hommes? On le voit dans la Bible. Mais regardez, tout le monde qui s'est... Regardez, dans la Bible, puis historiquement, tout le monde qui a pris la décision face « Est-ce que je me soumets à Dieu plutôt qu'aux hommes? » Puis qui, selon la parole, a dit « Je vais me soumettre à Dieu, je vais lui faire confiance. » Là, c'est le mandat de Dieu de nous protéger puis de s'occuper de nous autres. Puis Dieu l'a toujours fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont pas morts. Non, il y en a qui sont morts en martyrs. Vous savez quoi? Dieu s'est servi de ça. Même qu'il y a une phrase, sais-tu, c'est qui a dit ça? « Le sang des martyrs et la semence de l'Église. » Dieu, non seulement, oui, a protégé son peuple. Quelqu'un qui est déjà... quelqu'un qui ne va pas voir la mort, s'il meurt, ça ne dérange pas, il va juste voir directement Dieu. Je veux dire, c'est pas comme si Dieu est perdant là-dedans. Là. Ah non, parce qu'il peut se servir de ça, puis le témoin de ça, il en amène des milliers après au Seigneur. C'est le genre de choses que Dieu a faites. Puis savez-vous quoi? Dieu n'a pas changé. Dieu se sert de ceux qui se confient en lui pour faire avancer son œuvre. Et je pense que Dieu manifeste ça en ce moment. C'est de plus en plus clair, même. Est-ce qu'on va faire confiance à Dieu? Est-ce que Dieu est digne de confiance que, OK, même si on n'a pas tout exactement... Est-ce qu'on va continuer à faire confiance à Dieu qui protège son Église, qui protège ses enfants? Parce que, tu sais, il y a toutes sortes de menaces à gauche, à droite, mais est-ce que Dieu est digne de confiance? Moi, je crois de tout mon cœur que oui, puis savez quoi? Dieu nous le montre. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, on peut se réjouir de ça encore, le Seigneur nous donne une journée dans la liberté, la joie, la paix du Saint-Esprit. Ça, c'est Dieu, mes amis. Dieu honore la foi. Ah, on n'est pas des grands exemples de foi historique, mais avec le peu de foi qu'on a, Dieu honore ça. Puis c'est beau, c'est bon, puis ça porte du fruit. Et on doit s'encourager là-dedans. Et ça m'amène au troisième point ce soir avec lequel je termine dans les versets 25 à 30. La résolution du conflit. Non seulement il a provoqué le conflit, il a manifesté en pleine lumière ce conflit-là, mais là, Jésus s'adresse à eux. Et on voit vraiment son amour parce qu'il répond aux pharisiens, puis pas pour leur faire du mal, parce qu'il veut leur bien. Ça dit au verset 25, Jésus connaissait leurs pensées. Puis là, il se met à leur parler. On va voir ce qu'il leur dit. Mais n'est-ce pas, on va essayer de savoir un Dieu qui connaît nos pensées, même les rebelles, puis que dans son amour, comme ça, nous reprend. Et donc, Jésus répond ici à la fameuse déclaration là, du verset 25, parce qu'il connaissait leurs pensées. Ici, ayant entendu cela, ils dirent, mais peut-être qu'ils ne l'ont pas dit fort, peut-être qu'ils l'ont dit dans leur cœur, mais Jésus, il connaissait leurs pensées. Il savait qu'il venait de mettre ce que Jésus avait fait au rang de ce que Satan fait. Donc, il disait que Jésus agissait sous l'autorité de Satan. Mais la réponse de Jésus a 5 volets. Puis vraiment, le but ici de Jésus, quand ils ont dit résoudre le conflit, c'est qu'il voulait sceller leur rejet. Il dit, vous me rejetez, ça va être clair que vous me rejetez. C'est clair que vous rejetez Dieu. Avec ce que vous dites là, je veux vous mettre au clair que vous êtes en train de rejeter Dieu. OK, regardez bien ça. Puis il résout le conflit dans le sens qu'il amène ça clair, puis là, il faut que tu prennes ton bord, il faut que tu sois certain d'où est-ce que, tu te tiens là-dedans. Regardez versets 25 et 26. Ça dit, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc un royaume subsistera-t-il? OK? Donc, il parle ici, il leur demande la folie de leur affirmation. Il dit, voyons donc, un royaume ne peut pas marcher s'il est divisé contre lui-même. La première chose qu'il leur montre, c'est qu'ils parlent comme des insensés. Et mes amis, toute personne qui accuse Dieu que quoi que ce soit ne fait que manifester sa folie. D'ailleurs, n'est-ce pas, ce que même Job, cet homme juste qui craignait Dieu, au bout du compte, il dit, j'ai parlé de choses que je ne connais pas. Comment on dit, oui. Traduction, là, il dit, j'ai parlé en insensé. J'ai parlé de ce que je connais. J'ai parlé comme un fou. Puis ça, si c'est Job qui le disait, qui lui craignait Dieu, puis qui ne s'est pas attaqué à Dieu dans tout ça, ici, ces gens-là, il leur met leur folie dans... comme ça, devant eux. La folie d'accuser Dieu. Puis il leur met aussi leur aveuglement. Et c'est donc une grande démonstration d'amour ici de dénoncer leur attitude parce qu'ils voulaient les amener à la repentance. Hein, ne voulant qu'aucun périsse, la bonté de Dieu les amenait à la repentance. Regardez maintenant le verset 27. Non seulement il leur montre leur folie, mais verset 27, ça nous dit « Et moi, si je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Non seulement ils leur montrent leur folie, mais leur montrent, vous n'êtes pas logique. OK, si moi je fais ça, puis je chasse par Belzébul, vos fils, que vous dites être de Dieu, puis tout ça, hein, il les amène logiquement à ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'il dit ici, vos fils, par qui les chassent-ils? Parce qu'ils se disent de Dieu, leur fils, pis tout ça. Fait qu'ils vont être eux-mêmes vos juges parce que tu peux pas chasser un démon par un démon. Tu sais, parce que, veux dire, il faut que ça soit Dieu qui chasse un démon. Donc, moi, c'est pas logique ce que vous dites. Si moi je le fais par Satan, vos fils, eux autres, comme par magie, ça ne serait pas. Comprenez-vous? Il me demande, c'est pas logique ce que vous dites. Si Satan est vaincu, c'est parce que Dieu le vainc. Si c'est vrai pour moi, ça faudrait que ça soit vrai pour vos fils. Comprenez-moi? C'est pas logique ce que vous faites. Puis en passant, vous savez que la foi, c'est logique. Ou plutôt pour dire, la foi ne contredit jamais la logique, jusqu'à un certain point. C'est sûr que quand Dieu dit « Va-t'en dans le pays que je te montre » puis qu'on voit, tu sais, c'est pas « Ah, la logique humaine », mais dans le sens que ça contredit pas. Ce qui fait pas de bon sens, ce qui est pas logique, c'est l'incrédulité. Je le disais ce matin, comment, dites-moi, c'est logique de rejeter un Dieu qui nous aime, qui veut juste du bien, qui sauve. Est-ce que ça, c'est logique? Non, c'est vraiment pas logique. La foi, c'est un Dieu qui nous aime, qui a tout fait pour nous. Puis même comme chrétien, où est-ce qu'il dit? Je puis tout par celui qui me fortifie. Un Dieu là, qui nous donne tout pleinement dans sa grâce. C'est juste logique d'y faire confiance. C'est juste logique de s'abandonner à lui puis de marcher avec. Voyez-vous? La foi, c'est pas illogique. C'est l'incrédulité. Fait qu'eux autres, en rejetant Dieu demain, ils pensaient pas... Je veux dire, ça tournait pas rond, leur affaire. Ils pensaient pas sur le sens du monde. Non, en tout cas, sur le sens du monde, plutôt, je devrais dire sur le sens de Dieu, parce que le monde pense pas logique, là, mais bon. C'était selon la logique humaine, mais certainement pas la vraie logique selon Dieu. Puis regardez versets 28 et 29, où est-ce que Jésus continue, OK, à les amener à voir comment ils sont dans l'erreur. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. D'abord, la première chose qu'il faut qu'on voit avec ces deux versets qu'on vient de lire, Jésus met en évidence leur attitude. OK? Il dit, si j'ai fait ça par Dieu, vous venez de rejeter Dieu. Le royaume de Dieu est venu vers vous, puis vous le rejetez. Okay, il met ça en évidence. Vous rejetez Dieu, mes amis. Il les met face à la logique. Donc, vu si on suit la logique, si je fais les choses perdues, vous êtes en train de rejeter Dieu. Okay? C'est ça qu'il leur dit ici. Puis, quand il parle du fameux homme fort, puis tout ça, c'est que Jésus, c'est lui, l'homme fort, qui est venu lier Satan. Okay? Il est venu, il est plus fort que Satan, puis tout ça. Puis bon, je ne vais pas rentrer dans la théologie de l'Alliance, parce qu'il y en a qui prennent ça, puis bon. Mais c'est vrai, Jésus, je veux dire, sur la croix, il a vaincu Satan, il l'a exposé à l'ignominie, puis tout ça, puis bon. Il a vaincu Satan, et il a vaincu son royaume. Je veux dire, Satan est un ennemi vaincu. Il est venu, il a été pillé, il a été dépouillé. Ça dit, c'est dans Colossiens, hein, il est dépouillé. Et donc, si les autres persistent dans leur allégeance à ce prince vaincu, ils font juste rejeter Dieu. Puis dans le verset 28 aussi, ce qui est impliqué, c'est leur aveuglement spirituel. Hey, le royaume de Dieu est venu à vous. Le voyez-vous pas? Vous voyez, ça, Jésus leur met en évidence. Voyez-vous comment Jésus leur met évidence après évidence qu'ils sont en train de rejeter Dieu complètement? On dit, il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Et c'était leur cas. Puis regardez le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est la suite logique, hein, ici, de l'attitude des pharisiens, aveugles spirituellement, qui rejetaient Dieu, qui étaient rebelles. Ils étaient littéralement complices avec Satan. Pourquoi? Parce qu'en rejetant Dieu et en demandant aux gens de les suivre, non seulement eux s'en allant en enfer, puis eux se rejetaient Dieu, mais ils amenaient aussi, ils ne rassemblaient pas les gens parce que c'était les bergers d'Israël, okay? C'était eux qui étaient supposés diriger Israël dans les voies de Dieu. Mais là, au contraire, il ne les rassemblait pas comme ça, comme un berger. Il dispersait. Savez-vous quoi? Il y a une leçon là-dedans. Savez-vous que Satan est le diviseur puis le disperseur? C'est peut-être pas un mot qui se dit, là, mais si je vous le dis, vous comprenez bien pareil. Il disperse. Encore là, n'est-ce pas quelque chose qu'on voit en ce moment? Mais Dieu est celui qui rassemble. Puis regardez dans la Bible, quand on voit avec les prophètes qui parlent de déportation, puis bon, dans le jugement, ils ont été dispersés, puis tout ça. Mais Dieu rassemble, puis Dieu rassemble un peuple humble et petit qui trouve son refuge dans le nom de l'Éternel. Et qu'est-ce qui arrive? Ceux qui rassemblent, ils se placent sous son autorité, sous sa houlette, lui le bon berger. C'est ça que notre Dieu fait. Et donc, Jésus faisait tout ça parce qu'il voulait résoudre la question du pouvoir. Il dit, vous attribuez ce que je fais au pouvoir de Satan. Mes amis, vous êtes sous le pouvoir vous-même de Satan. Puis tant que vous n'allez pas vous placer sous mon pouvoir, tant que vous n'allez pas vous humilier, vous en allez à la destruction. C'est à ce point-là pour qu'ils se voient eux-mêmes dans leur aveuglement, dans leur rébellion face à Dieu. Ils ne pouvaient pas avoir de résolution sans ça. Il fallait qu'ils s'humilient. Ils voulaient les pousser à s'humilier. Puis mes amis, savez-vous, dans la vie, il n'y a aucun problème, conflit qui peut se résoudre tant qu'il n'y a pas d'humilité. Ça dit que c'est juste par l'orgueil qu'on excite des querelles. Là où est-ce qu'on s'humilie, ça désamorce le conflit. Essayez ça, voir. La prochaine fois que quelqu'un, vous avez une bisbille avec quelqu'un. Ah, t'as raison. T'as raison, j'ai péché. T'as raison, c'est méchant ce que j'ai dit là. T'as raison, mon attitude est pas bonne. Vous voir comment ça continue. Tu sais, dis pas juste comme des mots pour faire votre smack, là. Tu sais, notre nature humaine est sophistiquée, là. Mais si vraiment vous humiliez, là, ça désamorce le conflit. Là. Parce que c'est ce que la Bible dit. Je vais terminer avec les deux versets qu'on n'a pas lus encore, mais qu'on va lire maintenant, versets 31 et 32, le fameux péché contre le Saint-Esprit, puis je termine avec ça. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Le fameux péché contre le Saint-Esprit. Quelqu'un dit, est-ce que j'ai commis le péché contre le Saint-Esprit? Est-ce que je suis impardonnable? Il faut juste comprendre ici, c'est facilement résolu dans ce qu'on comprend le contexte. Ici, Jésus, il dit « c'est pourquoi ». Ok, donc, c'est en bord avec tout ce qu'on a vu ce soir. Il dit « c'est pourquoi ». Puis là, il parle de tout péché. Ici, vont être pardonnés, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est quoi? En fait, on l'a lu dans le verset 24. Cet homme chasse les démons par Belzébul, prince des démons. Historiquement, c'est ça le sens premier. C'est d'attribuer l'œuvre de Dieu à Satan. L'œuvre du Saint-Esprit. Jésus faisait les miracles par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Puis là, il attribuait ça. Bon. Ça, c'est le sens premier. C'est-à-dire, c'était le témoignage qui montrait que Jésus était bien le Fils de Dieu. C'était par le Saint-Esprit. D'ailleurs, il dit, c'est par le doigt de Dieu que tu fais ça, OK? C'était le Saint-Esprit qui rendait témoignage de Jésus-Christ. Dans le sens historique, c'était ça, le péché contre le Saint-Esprit, c'était rejeter le témoignage ultime de Dieu à cette nation qui dit, regardez, c'est bien mon fils, OK? Parce qu'il y avait les Écritures qui rendaient témoignage. Mais là, Jésus était là, il faisait des miracles qui montraient qu'il était bien le Fils de Dieu. OK? Donc ça, c'est le sens premier. C'était rejeter le ministère du Saint-Esprit qui donnait des signes et des miracles pour attester la divinité de Jésus, le fait qu'il était bien le Messie. OK? Puis si on regarde maintenant dans notre époque, est-ce que ça se peut, le péché du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ben, c'est quoi qui fait le Saint-Esprit en ce moment? Jésus, il dit, le Saint-Esprit, quand il va venir, il va convaincre le monde, OK? Donc, il agit dans la vie des enfants de Dieu, mais dans le monde, dans les gens non régénérés, le ministère du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché, de justice, puis de jugement. Et Jésus explique, de péché, parce que le prince du monde est déjà jugé. Donc, l'idée du péché, c'est que il y a un jugement au péché, puis Dieu convainc que, hey, t'es dans le trouble à cause du péché. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Justice, il ne nous convainc pas, oh, t'es donc bien juste, toi. Non, t'as pas de justice, il y en a juste un qui en a de la justice, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit encore qui convainc de ça. OK? Et jugement, le Saint-Esprit nous dit, si tu ne règles pas la question du péché, puis tu n'acceptes pas la justice de Christ, t'es dans le trouble. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit dans ce monde en ce moment. Et rejeter ça, c'est impardonnable. Parce que tu as rejeté le témoignage ultime que Dieu te donne du Fils. Donc, c'est le point commun. Dieu, le Saint-Esprit, rend témoignage de l'œuvre du Fils. Eux qui le rejetaient à l'époque, s'ils rejetaient ce témoignage-là, veut dire qu'ils rejetaient le Fils. Ben, c'est la même chose en ce moment. Le Saint-Esprit qui convainc, hey, Jésus-Christ, c'est le seul qui sauve. C'est de lui que tu as besoin. C'est ton plus grand besoin. Si on rejette ça, il n'y a pas de pardon parce qu'on a rejeté l'ultime témoignage de Dieu à nos cœurs même qu'on a besoin d'être sauvé. Comprenez-vous? Bon, c'est pas, j'ai pas fait le tour en long puis en large de la question du péché contre le Saint-Esprit, mais je pense que ça nous aide. Mais j'amène à ce point-ci. C'est une question d'autorité. On parle de conflit par rapport au pouvoir ou l'autorité. Jésus, il dit, vous faites ces choses, puis le témoignage le Saint-Esprit en rend témoignage. Pourquoi? Il voulait montrer que Jésus était bien le fils de David, le roi d'Israël, celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est ça la question. C'était pas juste pour dire, j'avais raison. Non, c'est pour dire, vous êtes grandement dans le temps, vous rejetez votre roi, celui qui légitimement règne sur vous. Et n'est-ce pas aussi vrai que Dieu est le créateur de tout l'univers? Puis quand quelqu'un rejette Dieu comme ça, comme, parce qu'on reçoit Jésus comme notre sauveur, mais on le reçoit comme notre autorité, là. OK? Puis c'est ça la question. Donc, c'est pour ça que je veux l'amener à ce point-ci. Lorsqu'on comprend, lorsqu'on croit, puis qu'on arrive au point où est-ce qu'on devrait arriver ici, puis c'est là que les pharisiens ne sont pas arrivés, puis heureusement, il y en a, je pense, d'entre eux qui sont arrivés là. Le point de tout ça, ce conflit-là qui a été provoqué, qui a été manifesté, puis qui a été résolu, c'est quoi la résolution? C'est quand on arrive à fléchir le genou devant celui qui a ce pouvoir-là. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse tant dans les cieux que sur la terre. C'est comme ça que ça se résolut. C'est pour ça que ça ne s'est jamais réglé pour les pharisiens, ils n'ont pas fléchi le genou. Et pour nous, si on est sauvé, c'est quoi être sauvé? C'est quand on a fléchi le genou devant Dieu. On a justement, on a vu notre péché, on a vu la justice de Christ, on a vu notre besoin, puis on dit, c'est Dieu, tu as raison. Confession, on a dit, Dieu, c'est vrai ce que tu dis, je dis la même chose que toi. Je suis un pécheur, je ne peux pas me sauver moi-même, juste Christ peut me sauver. Je te reçois comme mon sauveur, ma justice. Et c'est ça le salut. Et c'est ça la résolution du conflit ici. Maintenant, pour nous ce soir, je pense qu'on peut dire, beaucoup ici connaissent déjà le Seigneur Jésus, et donc on peut se demander, OK, dans ma vie, qui est au pouvoir? Qui est en autorité? Puis, est-ce que c'est évident? Est-ce que j'ai réglé dans mon cœur la question, le problème de l'autorité dans la vie, dans ma vie? Est-ce que ça se démontre dans ma vie que je suis sous l'autorité de Dieu? Et c'est quoi la façon de le savoir? J'y ai fait allusion tantôt. L'humilité. Quand Dieu me dit quelque chose, y a-t-il besoin de me tordre le bras? Est-ce que je regimbe? Est-ce que je regimbe quand Dieu utilise quelqu'un que j'aime pas qu'il utilise pour me reprendre, me diriger? Ça, c'est ma réponse à l'autorité de Dieu. Et donc, peut-être qu'on peut réfléchir là-dessus puis amener ça devant le Seigneur. OK, mais si je pense que la majorité sont sauvés ce soir, je pense que la majorité aussi, on a encore de la misère avec l'autorité dans notre vie, l'autorité de Dieu puis l'humilité, n'est-ce pas? On peut aller à Dieu avec ça puis lui demander de disposer nos cœurs. Encore là, pensez-y, quelle folie de résister à celui qui nous aime comme personne ne nous aime, à celui qui nous veut juste du bien. Que Dieu ouvre nos yeux, notre cœur à cette réalité et nous rende dociles à cette autorité bienveillante. Merci Seigneur qu'on a pu s'arrêter pour regarder comment tu es ce Dieu qui ne se lasse pas de tendre les bras, même à un peuple rebelle et contradisant. Merci que tu es ce Dieu qui est bienveillant. Merci que tu nous manifestes dans nos vies la folie, la rébellion de rejeter ton autorité bienveillante. Seigneur, sonde nos cœurs ce soir. Où est-ce qu'il y a des endroits? Où est-ce qu'il y a de la résistance? De l'insistance? Où est-ce qu'on ne veut pas? On refuse. Seigneur, ouvre nos yeux de voir, c'est de la folie. Toi qui es toujours bon, tu ne veux pas nous demander rien pour nous détruire. Pourquoi on aurait peur avec Dieu qui est avec nous? Seigneur, sonde nos cœurs et dirige maintenant ce temps qu'on prend pour répondre dans la prière à ce que tu nous as dit ce soir. On prie au nom de Jésus. Amen.